Accueillons Philippe Cantet. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Alors, Philippe, et juste avant d'entrer dans le vif des sujets, je sais que tu es un gros, gros amateur de tennis. J'ai pas eu le temps de l'aborder. Eugénie qui a perdu aujourd'hui dans un challenger du côté de Chicago. Hein, Chicago.
Oui, et, tout à fait. Ouais. Une défaite contre une Américaine qui s'appelle Christy Anne. Une défaite en 2-7. Et Christy Anne est 145e au monde. Alors, Eugénie Bouchard, elle pointe au 137e rang. Alors, ça s'améliore pas pour elle. Bon, il y a peut-être une déception à la suite de l'Omium américain. On sait qu'elle a gagné la première ronde, mais a perdu la deuxième, où elle a joué un très mauvais match là, contre la Tchèque Markéta Vondrousova, qui, elle, a continué par la suite. Elle a réussi à faire une ronde supplémentaire, mais ça va pas bien pour Eugénie Bouchard. Malgré ses efforts, elle est incapable de retrouver le chemin du succès de façon continue. On voit parfois quelques flashs, comme le fait, par exemple, qu'elle a réussi à se qualifier pour le tableau principal du US Open. C'était encourageant de gagner une première ronde. Mais remarque qu'en première ronde, le tirage l'a favorisé, clairement. Puis en deuxième ronde, c'était certainement une joueuse qui était battable pour elle, mais elle a été incapable de le faire. Et là, moi, ce que je constate, là, et c'est là qu'on voit combien, Mario, la carrière d'un athlète, c'est tellement rapide, c'est tellement éphémère. Tu sais, Eugénie Bouchard est encore jeune, là. Elle est née en 1994. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a des joueuses qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, qui performent déjà à un plus haut niveau. Tu vois aujourd'hui, par exemple, la Japonaise Naomi Osaka, qui s'est qualifiée pour la demi-finale. Elle a à peine 20 ans. La Tchèque qui a battu Eugénie en deuxième ronde au US Open, c'est une joueuse de 19 ans. Alors, tu vois toutes ces joueuses-là qui prennent de l'expérience, qui ont 4 ou 5 ans de moins qu'elle, qui performent toujours à des plus hauts niveaux. Tu vois que pour elle, là, pour Eugénie Bouchard, le temps commence à presser. Puis je veux bien là, qu'on dise qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de joueuses qui atteignent leur meilleur niveau à un âge plus avancé qu'à l'époque où on a vu des championnes comme Martina Hingis, elle avait 16 ans, puis elle dominait le tennis féminin. Et je comprends que c'est plus ça aujourd'hui, puis qu'une Angélique Kerber, par exemple, est devenue numéro 1 au monde plus vieille, puis a gagné ses premiers grands chelems à 28-29 ans. Mais il en reste pas moins qu'il faut qu'il centre une progression, et là, on la sent pas avec Eugénie Bouchard.
Non, c'est pas... Est-ce que tu as été séduit par un des matchs que tu as vu jusqu'ici dans le cadre du US Open hier, par exemple?
Écoute, il y a tellement de
tennis. Je regardais Team... As-tu veillé jusqu'à la fin entre Team et Nadal hier?
Presque,
moi, j'ai hissé le drapeau blanc. Parce que là, je me suis dit, écoute...
Tout à coup, là,
c'est ça. Je me coucherai pas à 4 ou à 3, c'est ça.
Voilà, exactement. Mais c'est du tennis absolument extraordinaire. Et je pense que ce qu'il faut réaliser aussi, c'est les conditions dans lesquelles ce tournoi se joue là. Il me semble qu'habituellement, oui, on a déjà vu des vagues de chaleur au US Open. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais aussi chaud puis aussi éprouvant pour les joueurs. Il me semble que d'habitude, on voit plus ça en Australie, là, en début de saison, au mois de janvier, où en Australie, on est au cœur de l'été. On a vu des matchs joués par une chaleur infernale, puis vraiment, même, on a parlé à ce moment-là de la sécurité des joueurs et des joueuses. Est-ce qu'on la mettait en cause en leur permettant de jouer dans des conditions aussi chaudes? Et là, au US Open, c'est un peu ça qu'on voit. Et quand on entend un joueur comme Roger Federer qui explique sa défaite étonnante contre un joueur australien qu'on connaissait pas beaucoup, le Millman, avant ce match-là, qui dit « Mon corps n'a pas réagi à ça, a été incapable de réagir adéquatement à cette chaleur-là. »
Oui.
Et on l'a vu, moi,
j'ai regardé... Il y en a plusieurs qui ont été accablés par la chaleur. On a vu même des jeunes être accablés par la chaleur.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Félix Auger-Aliassime, notamment.
Ben voilà. Puis j'ai regardé presque l'ensemble du match de Federer, puis tu sais, il avait tellement bien joué à sa rencontre précédente, et là, on l'a vu, il était complètement désarçonné. Il a raté plusieurs coups, des fautes directes, un revers pas tellement sous pression, trop long, un coup parallèle, à côté de la ligne. Tu sais, le genre de coup que Federer ne rate pas habituellement. Il en rate, bien sûr, comme tous les autres joueurs, mais c'est un minimum de coups qu'il va rater dans un match. Alors là, il y en a eu plusieurs. Alors, on voit que cette chaleur-là l'a affecté, a sans doute affecté sa confiance aussi. Il a eu de la misère à réagir à tout ça. Alors, tu vois que c'est un tournoi qui, avec cette chaleur-là, prend une dimension particulière. Tu le vois, d'ailleurs, les joueurs sont ils sont toujours en sueur, mais là, tu le vois à la télévision, c'est vraiment une chaleur inouïe. Et franchement, des matchs de 4-7 qui sont très longs, qui durent 3 heures, des matchs de 5-7 de 4 heures, près de 5 heures, c'est quand même assez extraordinaire de les voir disputer des rencontres dans ces conditions-là.
C'est un autre débat de savoir si c'est encore nécessaire, mais je veux dire, encore ouais. faut-il qu'on soit là pour les regarder, parce que sinon, ben, ça entre dans la légende sans qu'on les voit, tu sais. Ben, à moins de te faire... Tu sais, ça me rappelle dans le temps, tu sais, là, me rappelle des matchs de hockey qui allaient bien, bien, bien loin en prolongation. Je me rappelle d'un but de Pat Lafontaine. C'est-tu ça, Pat Lafontaine ou Pat
ouais,
Flatley?
Contre
les Caps de Washington. Puis, j'étais bien excité quand un match, là, s'en allait en troisième prolongation. C'était du jamais vu. Aujourd'hui, reparlement d'un match qui s'en va jusque-là, qui était 1-1 après 60 minutes ou 2-2. C'est assez. Ça me fait moins triper. Le tennis, écoute, c'est ça. As-tu 5-6 heures par jour ou pour regarder un match du début à la fin pour tout savourer? Faut avoir fait bien.
Là, toi, tu parles dans une logique de téléspectateur.
Dans une logique de téléspectateur. Ouais. Sur place, quand tu achètes ton billet, tu assistes à la soirée, là, c'est une autre affaire. À moins que tu y sois allé avec les enfants, mais je pense pas que c'est une bonne idée, considérant l'heure de fin possible. Mais encore
mais
une
l'école
fois,
est commencée pendant l'US Open, en plus.
Ouais, c'est ça.
Là, écoute, c'est une excellente question que tu poses là, puis c'est un problème dont on parle à propos du baseball à chaque année quand arrive la Série mondiale avec les matchs en soirée, puis qui commence souvent, officiellement c'est 8 heures, mais on sait bien que ça commence jamais à 8 heures, ça commence tout le temps vers 8h10, 8h15. En Série mondiale, bien sûr, les matchs sont toujours un peu plus longs, il y a des changements, les lanceurs prennent leur temps, ils essaient toujours de réduire la durée des matchs, mais tout à coup, là, quand on arrive dans des rencontres où les enjeux sont aussi formidables, les arbitres laissent un peu de lousse là, parce qu'ils savent que la saison est en train de se jouer potentiellement sur le jeu suivant. Et c'est un problème parce que là, les cotes d'écoute baissent. Parce que oui, les matchs, là, on arrive, il est minuit puis on est en septième manche. Tu sais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
La côte ouest, peut-être que ça t'ouvre le marché de la côte ouest. Mais moi, hier, j'étais un peu frustré. Là, parce que, tu sais, je me suis investi dans le match. Tu sais, je l'ai regardé, j'ai vu le 6. Tu sais, tu vois tout. Puis là, à un moment donné, tu veux continuer. Mais là, tu sais que tu vas payer le prix le lendemain, par exemple.
Ben voilà. Moi, vois-tu, hier, là, sur un plan personnel, j'ai écouté les trois premiers jeux du dernier set, puis il était rendu passé 1h du matin.
C'est ça.
1h10. Ben, tu sais, tout à coup, t'as ta journée dans le corps aussi.
J'ai ici le drapeau
blanc.
T'en as
qui t'attend le lendemain matin, là, tu sais. Alors, c'est sûr que pour les codes d'écoute, puis d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, comme moi, combien il y avait peu de gens dans les gradins.
Ben, j'en revenais pas, puis tôt, assez tôt en soirée, Philippe, là. Pas à minuit, là. 10h30, il y avait c'était parsemé, là. Mais il y avait du monde partout, mais il y avait des bancs vides partout.
Ah, puis au deuxième niveau, quand on voyait là, la vue d'ensemble du stade principal, là, c'est, au deuxième niveau, il y avait 10 sièges vides pour un siège occupé, là, zéro doute là-dessus. Alors, pour les gens aussi, c'est très tard. Alors, je ne sais pas comment ils peuvent faire avancer un petit peu ce dossier-là. Bien sûr, ça dépend de la durée des matchs qui précèdent, mais c'est sûr que ça fait des soirées de tennis qui sont un peu longues. En revanche, comme tu le disais tantôt, souvent ces rencontres-là vont devenir des moments d'anthologie. Moi, je me souviens, un de mes plus beaux souvenirs au tennis, de regarder un match de tennis, c'était à l'Omnium américain. C'était un match entre André Agassi et James Blake.
C'était sûr que tu allais mentionner Agassi. Set. Ah oui.
Ah oui, c'est sûr. Ben, t'sais, moi, j'aimais beaucoup Agassi. Puis en plus, ça avait été un match absolument extraordinaire.
Oui.
Puis je vais te raconter une anecdote parce que celui-là, je me souviens très bien. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Puis c'était absolument fantastique. Ça s'est réglé en 5-7. Et Agassi remporte le duel. Et après, il était interviewé sur le terrain là, par l'animateur, l'entrevue de circonstances, il est épuisé. Et puis là, l'animateur lui demande et lui dit « André, c'est toi qui as gagné ce soir, tu dois être content d'avoir gagné ce match-là. » Et là, Agassi, qui avait tout le temps le sens de la réplique, il dit « Non, c'est pas moi qui a gagné, c'est le tennis qui a gagné ce soir. » C'était une réplique extraordinaire. C'était fantastique d'entendre ça. Et pour moi, Agassi, c'était cette espèce de sens, la formule qu'il avait, là, qui rajoutait aussi avec, bien sûr, tout son côté rebelle qu'il a cultivé depuis le début de sa carrière. Là. Quand il raconte, je sais que j'en ai déjà parlé, mais puisqu'on parle d'Agassi, tu sais, je recommanderais jamais assez l'autobiographie. En fait, la biographie, plutôt, c'est écrit par... c'est pas écrit vraiment par lui, mais c'est écrit au jeu d'Agassi. Qui est traduite en français d'ailleurs mais bien sûr c'est disponible en anglais. C'est un livre de sport absolument fantastique. La biographie d'Agassi raconte, c'est un feu roulant d'anecdotes, c'est superbement bien raconté, puis il raconte tout son parcours dans le tennis, son parcours personnel aussi, puis tu sais le côté rebelle, comment il l'a développé. Tout à coup, il raconte une anecdote. Il y avait eu un équipementier qui présente des pour les joueurs là, avant un tournoi une collection de nouveaux vêtements, des shorts puis des chemisettes et tout. C'était probablement avant le temps là où ils signaient tous des contrats faramineux avec Nike ou Adidas. Alors là il va là, il rentre là, puis John McEnroe qui Agassi commence sa carrière, mais McEnroe déjà dans sa carrière a déjà une super vedette, et là il voit une paire de shorts pour jouer, c'est des jeans coupés, tu sais, effilochés dans le bas, et McEnroe passe à côté de ça, puis non, ça c'est pas pour moi. Puis là, Agassi raconte, il dit, quand j'ai vu que McEnroe les prenait pas, il dit, moi je suis sauté là-dessus, puis je les ai mis. Puis je sais pas si tu te souviens de ses premières images d'Agassi quand il est arrivé là, avec ses longs cheveux puis
ben
son
oui,
jeans. Il a établi
ça coupe à la Durant
ben ouais,
au tennis,
ben
ouais, c'est ça.
Ben oui, tu sais, alors c'est un peu comme ça qu'il a bâti. Alors il raconte toutes ces anecdotes-là et bien d'autres, et c'est vraiment passionnant de la première à la dernière page.
La rumeur du jour, ouais, c'est l'information que Marc Defoy a publiée sur le Journal de Montréal à l'effet que le clan Pacioretty ne négocierait pas pendant la saison. Mais tu sais, on s'entend-tu pour dire, je parle pas de l'information ou de ce que Marc a écrit, mais que Pacioretty dise ça, on s'entend-tu que ça vaut ce que ça vaut?
Ouais, ben,
s'il est échangé au mois de décembre puis il signe un contrat avec son nouveau club, c'est d'autres paroles qui veulent rien dire.
Ouais, c'est ça. Mais c'est
l'opération relations publiques qui se poursuit.
C'est une information intéressante de notre ami Marc, parce que ça illustre jusqu'à quel point les relations ne sont pas bonnes entre deux parties. Quand un athlète commence à dire qu'il met une date butoir, au fond, il met une date butoir pour les négociations. Même après cette date-là, je négocie plus. Ça, c'est le signe que ça va pas bien. Quand une négociation va bien, quand elle se déroule tranquillement, correctement, t'entends pas les joueurs dire des choses comme celle-là. Et ça se règle, mais parfois c'est pendant la saison, parfois c'est
même
avant.
Quand ça va pas bien, Philippe, si tu me permets, as-tu entendu de quoi de négatif sur Tavares que les Islanders n'ont pas réussi à garder?
Non, t'as tout à fait raison.
Il faut peut-être se poser des questions sur les façons de faire.
Ouais, mais lui, dans son cas, Tavares, il voulait pas signer parce que c'était clair qu'il étudiait encore la possibilité d'aller sur le marché des joueurs autonomes où il savait qu'il toucherait le gros lot.
Oui.
Le cas de Pacioretty est un peu différent. Je pense que lui, il aimerait ça signer un contrat tout de suite. Puis mets-toi dans sa position. Quel genre de saison il va avoir l'an prochain s'il reste avec le Canadien, alors que ça va être une équipe qui sera certainement pas parmi les plus concurrentielles dans la Ligue nationale, qui aura pas vraiment de joueurs de centre pour l'alimenter? Est-ce qu'il va marquer 35 buts l'an prochain? T'sais, les chances sont probablement que non. Alors là, deux mauvaises saisons.
Gallagher en a marqué 30 pareil. Lui, l'an passé, puis il n'y avait pas de centre.
Ouais, c'est un fait. Mais tu sais, reste à savoir si Gallagher répétera la
non, mais
prochaine.
C'est juste pour dire que tu sais, le gars qui attend toujours après l'autre pour avoir du succès, là,
c'est un bon point.
Sais-tu quoi? Tu vas pas à guerre avec ça, Philippe.
Non, c'est mon humble avis,
là, mais...
Ouais, mais écoute, c'est un point. Mais tu sais, Gallagher, c'est pas du tout le même type de joueur.
Je le sais.
Gallagher, c'est un gars qui va devant le filet puis qui se bat et tout. Pacioretty, c'est un marqueur. Un marqueur, ce qu'on appelle un marqueur pur, tu sais. Puis souvent, ces gars-là, on les juge un peu sévèrement. Puis ça veut pas dire que s'il allait dans le coin tout le temps puis qu'il allait se battre puis que ça, qu'il aurait plus de succès parce qu'il sortirait de son jeu, de son style de jeu. C'est pas comme ça, je pense, qu'il serait efficace. Pour moi, Pacioretty, il va être efficace s'il y a quelqu'un qui est capable de se faire des passes. Puis quand Radulov était là, il a été capable de connaître des bonnes saisons. Puis quand Desharnais a été là puis qu'il était capable de l'alimenter correctement, il y a eu des bonnes saisons. L'an dernier, ça a été catastrophique pour toutes sortes de raisons.
Radulov l'a bien alimenté aussi comme ailier.
C'est ça, exactement. Puis là, Radulov n'est plus là. Puis il n'était pas là l'an dernier. Puis Desharnais n'était pas là. Puis là, il s'est retrouvé avec Drouin. Puis malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris entre les deux. Un match seulement. Le premier match de l'année, ça a bien été. Souviens-toi de la superbe passe de Drouin à Pacioretty de Buffalo qui donne la victoire aux Canadiens. Tout le monde disait, ça y est, c'est parti, ça va être une saison extraordinaire avec les deux, mais ça n'a pas été le cas du tout. Alors là, lui, il se retrouve dans cette situation-là, puis il se dit, hey, là, si je reste ici à Montréal, pas de joueur de centre, une équipe bien ordinaire, combien de buts je vais marquer, moi, là? Puis là, si j'ai une autre mauvaise saison, ça risque d'être difficile. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il veut mettre de la pression, mais au-delà de tout ça, qu'il veut mettre de la pression, qu'il ne veut pas en mettre, c'est clair que ça va tellement mal entre les deux parties. Il faut que ça se règle. Il faut que le Canadien réussisse à l'échanger. Puis le Canadien, malheureusement, en raison de la façon dont Marc Bergevin a mené le dossier, où tout le monde sait maintenant que les relations entre les deux hommes sont mauvaises, les autres directeurs généraux, l'attendent avec une brique pain fanal. Puis la contrepartie que le Canadien obtiendra s'il réussit à échanger Pacioretty sera moindre que celle qu'il aurait dû obtenir pour un joueur avec ce potentiel-là et cette valeur-là.
Et en même temps, peut-être qu'il y a des sentiments qui l'ont rattrapé, là. Tu sais, quand tu te rends compte que tu vis un divorce, là. Tu sais, j'ai entendu des histoires dans la vie, moi, de gens qui arrivent au palais de justice, peu importe, là, dans la démarche, puis là, maintenant, des fois, ils ont envie de faire marche arrière ou ils disent, hey, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui se disent, on aurait dû le faire avant, là, ça, c'est une autre affaire. Mais il y a des sentiments là, qui habitent tout le monde. Puis Paturity, t'es un gars sensible de nature, de ce que l'on me dit. Et dans le, des fois, ça peut amener quelqu'un sur des pistes négatives, mais des fois, ça peut l'amener sur des pistes différentes. Et bref, peut-être que ça le brasse, tout ça. Là, puis que,
peut-être que ça le brasse.
Tu sais, quand il fait dire à son agent qu'il veut signé Today en lettres majuscules avant hier. Là. Moi, je peux te dire que c'était pas ça le message qu'il véhiculait pendant la dernière saison, quand il voulait aller rejoindre du monde en Floride ou encore du côté d'LA. Mais là, peut-être que se rendant compte que sa valeur sur le marché n'était peut-être pas celle qu'il croyait être quand les Kings lui ont offert 6x6, peut-être qu'il se dit, ben, je suis aussi bien d'essayer de m'entendre là où un public me veut, parce que le public veut bien plus Paturity que Marc Bergevin, là.
Oui, oui, c'est clair. Puis, tu sais, l'autre élément qui est important là-dedans, c'est que c'est quand même prestigieux être capitaine du Canadien de Montréal. Là. Dans une carrière, tu sais, quand tu peux dire ça, là, moi, j'ai été capitaine du Canadien de Montréal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout là, dans ta
ben,
place, tu sais, dans le hockey. Alors, ça aussi, ça compte peut-être. Moi, j'ai très hâte de voir s'il demeure avec le Canadien et qu'il est là au premier match de la saison régulière au Centre Bell lors de la présentation des joueurs, quel accueil il recevra de la foule.
Là, il va avoir un bel accueil, je suis convaincu.
Oui, mais quel genre de bel accueil? Un accueil délirant, un accueil... Tu sais, ça va être intéressant de noter ça, là, comment ça va se passer. Oui. Là,
comme dans le temps des tannants avec l'applaudissomètre. On aime ça, nous autres.
C'est ça. Tu sais, puis des fois, ça parle. Parce que souviens-toi, l'an dernier, un des moments les plus significatifs de cette saison de misère où il n'y en a pas eu beaucoup de moments significatifs, ça a été à la toute fin du calendrier. Je pense que c'était contre les Jets de Winnipeg.
Ben oui.
Quand Carey Price, là, on a souligné son record. Mm. Et puis là, la foule spontanément s'est levée, l'a applaudi à tout rompre. Lui est devenu ému. Moi, j'étais là dans le vestiaire après le match, puis il en parlait avec énormément d'émotion, comment ça l'avait touché. Il a avoué que bon, il y avait des larmes qui avaient coulé et tout. Et ça, c'est pour un athlète, ça parle. Alors, les athlètes carburent à ça aussi, beaucoup. Et Paturity, il y a probablement besoin à quelque part de cette marque d'affection du public. Est-ce qu'il l'aura? On verra bien. Mais dans le cas de Price, j'ai hâte de voir l'impact aussi que ça va avoir sur sa saison actuelle. En tout cas, il a terminé l'année dans des meilleures dispositions qu'il était deux semaines auparavant.
Oui, c'est sûr. Mais tu sais, Philippe, je regarde tout ça puis ce qui fait jaser les gens, là, la poignée de main, les applaudissements. Puis des fois, je me demande si le monde aime vraiment le hockey. Je pense que c'est le télé-réalité qu'il préfère.
Ben, écoute, c'est pas mauvais non plus, là.
Mais non, t'as raison. Salut, Phil.
Salut.
À bientôt.